Farafina, Farafina. C'est l'heure du Farafina Trip.
So you're taking your roots and translating it into something contemporary.
L'heure africaine sur CFM, et quoi beau, soyez les bienvenus, vous écoutez le Farafina Trip.
History, use our goodness and nourishment in the name of missionary. Lies to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthen us, sadden us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better. Wake up world, wake up world, wake up and stop sleeping. Wake up Africa, wake up and stop blaming. Open your eyes, stand up and arise. We'll block all our penalty. Why do we want to remain where we start taking? And how long do you want to stop yourself from thinking? We should learn from experience that what we are here for is existence. But now we decide to use the same hatred to suppress our own brother. Body chasing and biting us. Knowledge is selfishness that they gave to us. This is what we use to abuse our. Please stop.
C'était le titre Africans de la chanteuse nigériane Nneka. Titre dans lequel elle exhorte entre autres les Africains et leurs élites à se réveiller et une bonne fois pour toutes à prendre leur avenir en main. Soyez les bienvenus, vous êtes sur CFM et vous écoutez le Farafina Trip, l'émission consacrée aux musiques d'Afrique. Durant une petite heure, on se détend, on se relâche, on écoute des sonorités peut-être que l'on n'a pas l'habitude d'écouter ci ou là et on en profite pour parler un peu de ce continent. Et oui, nous savons comment meurent les Africains, mais jamais comment ils vivent. C'est en ces termes que l'écrivain suédois Henning Mankell aimait à décrire l'ignorance qui persiste quant à la vie d'une manière générale sur le continent, berceau de l'humanité. Après donc le Cameroun et la République démocratique du Congo, nous continuons à parcourir l'Afrique centrale. Je vous embarque aujourd'hui pour le Nigeria, pays qui est malheureusement connu pour ses mails frauduleux qui promettent richesse et bonnes affaires, le danger que l'on y court en tant que touriste depuis notamment les faits de kidnapping perpétrés par la secte Boko Haram, ainsi que les tensions religieuses dans le nord du pays qui drainent son lot de cadavres. Bref, assez d'éléments pour détourner les aventuriers d'un pays qui est le plus peuplé du continent, qui rassemble pourtant une scène artistique talentueuse et hyper douée dans bien des domaines. Des estimations démographiques laissent penser qu'à la moitié de ce 21e siècle, un Africain sur trois sera nigérien. À l'heure actuelle, c'est pratiquement un sur six qu'il est. Mais que savons-nous de ce pays? À part la secte Boko Haram dont je viens de parler, qui sévit surtout dans le nord du pays, Fela et la famille Kuti, l'Afrobeat, Kezia Jones, Asha, J.J. Okocha, connu des footeux, finalement pas grand-chose, et encore moins s'agissant de sa scène musicale pourtant bouillonnante. Prêtez-moi donc vos oreilles pour écouter quelques morceaux du pays le plus peuplé d'Afrique. Bienvenue sur les terres des peuples Yoruba, Igbo et Haoussa, le pays de Fela et son Afrobeat, et d'un des rares prix Nobel de littérature et de grandes plumes du continent africain. Welcome to Nigeria.
Oh shit!
C'était le pape de l'Afrobeat, le Black President, Fela Anikula Pokuti, l'une des figures les plus importantes à ce jour de la musique nigériane. Décédé en 1997 du sida, Fela était un musicien et un chanteur engagé politiquement qui n'a eu de cesse de dénoncer les injustices que subissaient ses compatriotes au travers de ses textes et de sa musique. Considéré comme l'inventeur de l'afrobeat, style de musique qui mêle le funk, le jazz, à des rythmes nigériens et africains, Fela aura marqué l'histoire politique et musicale de son pays, le Nigeria, et de l'Afrique plus globalement. J'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, de parler plus ou moins en détail de son œuvre dans une émission qui était consacrée à l'afrobeat. Vous pouvez la réécouter sur le site internet de la radio à l'adresse www.cfmradio.fr à la rubrique Farafina Trip. Et si je me souviens bien, je crois que le titre de cette émission, c'était l'afrobeat. Bien, faisons connaissance avec le Nigeria, qui est un géant économique et démographique du continent africain. Pays anglophone d'Afrique centrale, la République fédérale du Nigeria se situe au niveau du golfe de Guinée et a pour capitale politique la ville d'Abuja. Le pays est limité au nord par la République du Niger et du Tchad, à l'est par le Cameroun, au sud il s'ouvre sur l'océan Atlantique et à l'est on retrouve la République du Bénin. Le Nigeria s'étend sur une superficie d'environ 920 000 km² et compte plus de 170 millions d'habitants, ce qui fait de lui le pays le plus peuplé d'Afrique. Sur ces 170 millions de Nigériens recensés, 43% ont moins de 15 ans et 3% seulement ont plus de 65 ans. C'est dire la vitalité de ce pays. D'ailleurs, un rapport de l'Institut National des Études Démographiques, l'INED, publié en 2011, prévoit que d'ici à 2050, la population du Nigeria atteigne plus de 430 millions d'âmes, ce qui ferait de lui le troisième pays le plus peuplé au monde après l'Inde et la Chine. Au Nigeria, on distingue trois principaux groupes ethniques qui constituent la majorité de la société nigérienne. Il s'agit des Yoruba, des Igbo et des Hausa. Chacune de ces ethnies a ses particularités culturelles et religieuses. Les Yoruba vivent principalement dans le sud-ouest, certains sont musulmans. Les Igbo dans le sud sont principalement chrétiens et animistes. Et enfin, les Hausa Peul vivent au nord et sont exclusivement musulmans. En marge de ces principaux groupes, on dénombre quelques centaines de minorités ethniques réparties çà et là et qui possèdent chacune sa langue, son histoire et ses propres coutumes. Au total, on recense plus de 520 langues au Nigeria, mais la langue nationale et officielle est l'anglais. Mais bon, dans les rues de Lagos, la plus grande ville du pays, et un peu partout dans le Nigeria, les Nigériens parlent le pidgin, qui naît, comme c'est souvent le cas, dans tous les pays où l'anglais n'est pas la langue autochtone. Officiellement, connu sous le nom de Naija, le pidgin est un mélange d'anglais, de dialectes locaux, agrémentés d'accents africains, difficiles à capter pour les non-initiés. Dans certaines chansons nigériennes d'ailleurs, vous savez qui chante en anglais, vous savez que vous comprenez et parlez très bien la langue de Shakespeare, mais impossible de capter quoi que ce soit de ce qu'ils disent. Buddy, Nasoide. Par exemple, en anglais, pour demander comment ça va, on dira How are you? En pidgin nigérien, ça se dit How you day? C'est quelque peu subtil et ça prend du temps avant de s'y faire. Tiens, écoutons le titre Enoézi des frères jumeaux nigériens Paul et Peter Okoye, qui sont devenus en quelques années de véritables idoles sur tout le continent africain et qui chantent essentiellement en pidgin. Ce sont les princes de la Naija Music. Baba God na your hand work here, 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 here. Love me na your hand work here. I say we don't need here. Oh, oh, oh. To the sing and the dance and the people they rejoice here. Oh, oh, oh. My brother, my sister, don't need today. Oh, oh, if we could do a party, make we the tango here. Baba God na your hand work here, here, here. Don't be lie, I say no be lie. Don't be everybody. Why sleep for night? You wake up, see the light. See the future is bright. I need to enter for eye. Make you do your best. Papa God go handle the rest. Even if you no get money, they jolly they shake body. No need to get your body. If it no be God way, that's some be me dead body. Nobody be no baby. When you fall, you go stand up again. You try them again, again and again and again. Cause it's not easy, yeah. Oh, oh, oh. To the singer, the dance, and the people, they rejoice, yeah. Oh, oh, oh. My brother, my sister, don't C'était Ino Easy des P-Square du Nigeria qui combine le R&B, la soul urbaine, le dancehall avec une rythmique africaine. Sorti en 2009, ce titre a été un véritable tube continental qui a mis de l'ambiance dans bien des cabarets et autres maquis all over Africa. Les frères jumeaux en sont à leur 5e album et ont déjà vendu des dizaines de millions d'albums. Parlons à présent de l'histoire du Nigeria, qui est une histoire bien tumultueuse ces dernières années. Avec le Cameroun, le Nigeria est le berceau du peuple bantou, qui va essaimer un peu partout en Afrique subsaharienne jusqu'en Afrique du Sud, au cours de ce qui est considéré comme le plus grand mouvement de population de la préhistoire africaine. Les bantous sont essentiellement un peuple d'agriculteurs. Ils vont commencer leur rapide migration et prendre le dessus sur les peuples de chasseurs-cueilleurs il y a plus de 5000 ans. Je reviendrai dans une prochaine émission sur ce fait historique qui explique énormément de choses, à commencer par les problèmes politiques qu'a vécu l'Afrique du Sud lorsque le régime de l'apartheid était en vigueur. Donc je disais, les Bantous apparaissent aux confins du Nigeria il y a bien plus de 5000 ans. Avant l'arrivée des Portugais au 15e siècle, qui matérialise le premier véritable contact avec l'Occident, plusieurs civilisations prospéraient au Nigeria. Les recherches archéologiques témoignent de royaumes organisés et puissants, tels que celui des Yoruba, des Oyo et des Hausa. Après les Portugais qui avaient établi les premiers contacts commerciaux, vinrent les Anglais, qui établirent des ports pour le trafic d'esclaves et des matières premières. Le peuple Yoruba constituera la majorité des esclaves à être déportés en Amérique du Sud, que ce soit vers le Brésil, les Caraïbes ou encore Cuba. C'est eux qui vont amener le vaudou dans cette partie du monde, ainsi que les divinités Orishas. Mais bref, revenons à l'histoire proprement dite du Nigeria. Suite à la conférence de Berlin en 1884 et 1885 donc, les Anglais asseyent leur domination sur cette partie de l'Afrique et unissent le nord et le sud du Nigeria en 1994. Le pays accède à son indépendance en 1960 et après quelques mois de réjouissance, cette nouvelle liberté va laisser place à une instabilité politique qui se justifie par l'immensité des richesses dont jouit ce pays. Entre 1966 et 1993, pas moins de 8 coups d'État et de dictatures militaires vont se succéder à la tête du pays. Le fait le plus triste et révélateur des manipulations politico-économiques se déroule à la fin des années 60, lors de la guerre du Biafra, qui fera entre 1 voire 2 millions de morts selon les sources. La raison officielle pour cette guerre, conflit ethnique et religieux, comme on les présente toujours quand il s'agit de l'Afrique. Mais quand on creuse, on trouve l'or noir. En effet, le Biafra est une région du sud-est du Nigeria et celle qui détient le plus de réserves pétrolières du pays. Il faut savoir que le Nigeria est le premier pays producteur de pétrole en Afrique et le 10e au niveau mondial. En 1967, cette région fait sécession et peu à peu les historiens commencent tout juste à démêler le rôle des puissances occidentales dans la mort de ce million de personnes. Ce qui passe pour être un conflit habituel africain se révèle être un affrontement entre superpuissances pour leur indépendance énergétique, l'échec de la guerre d'Algérie, la protestation de la jeune élite nigériane face aux essais nucléaires français dans le Sahara, mais surtout la volonté de mettre la main sur toutes les réserves d'or noir dont recèle le pays. La France du général de Gaulle soutient les sécessionnistes du Biafra et fournissent armes, matériels, instructeurs et autres mercenaires. Le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS, pour une fois durant la guerre froide dans le même camp, soutiennent le Nigeria et font de même que la France en fournissant des armes, des instructeurs et des mercenaires. C'est au cours de cette guerre aussi que le monde découvrira que l'on peut être médecin et mannequin à la fois, en la personne de Bernard Kouchner, qui y a intervenu pour le compte de la Croix-Rouge. C'est à la suite de cette tragédie qui créera avec d'autres docteurs l'ONG Médecins sans frontières. Plusieurs coups d'État plus tard, ce n'est que depuis 1999 d'ailleurs, que de véritables élections démocratiques ont lieu au Nigeria, ou du moins dont les résultats sont respectés par toutes les parties. Depuis 1999, 3 présidents se sont succédés à la tête du pays. Si la stabilité politique est plus ou moins acquise, les tensions religieuses entre musulmans du Nord et chrétiens du Sud ne cessent d'être attisées. Avec la montée du fondamentalisme religieux un peu partout en plus, c'est une véritable guerre que se livrent ces deux confessions au Nigeria. Le groupuscule Boko Haram, qui sévit surtout au nord du pays, souhaite faire appliquer, plutôt par la force, la charia, la loi islamique, dans tout le pays, en dehors, voire dans tout l'univers. Depuis 2009, c'est plus d'un millier de morts que leur volonté laisse sur le carreau. Triste histoire en somme pour un si grand pays qui continue de s'écrire sous nos yeux.
Cry again, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey tire her. Sweet mother, I no go forget the suffer where you suffer for me. Yeah, yeah. Sweet mother, yeah, sweet mother. Oh, yeah.
Oh, sweet mother, I will never forget you. But the suffer you suffer for me.
dans les mbalans.
All right, sir.
Bojou mon bâtiment, on est au PCHE. Bojou mon bâtiment, on est au PCHE.
Vous écoutez le Farafina Trip sur CFM, une des émissions de la radio qui parle de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec ses 170 millions d'habitants, premier producteur de pétrole d'Afrique. Le Nigeria ne possède pourtant aucune raffinerie, disons, officielle et doit importer son pétrole raffiné d'Europe et des États-Unis. Or, ce qui fait la particularité du pétrole nigérien est qu'il est peu chargé en soufre et donc son raffinage est aisé et facile. Du coup, c'est des centaines de raffineries artisanales contrôlées plutôt par des mafias qui se créent un peu partout dans le pays et alimentent les moteurs de l'Afrique centrale et de l'Ouest à des prix défiant toute concurrence. Ce pétrole est devenu la malédiction du pays. Comme je l'ai évoqué précédemment, il est à l'origine de la guerre du Biafra. Mais que dire des catastrophes écologiques qui ont cours dans le golfe de Guinée? Si Barack Obama a obligé BP, une compagnie pétrolière britannique, a payé la somme de 20 milliards de dollars avec l'aide de la communauté internationale afin de dédommager les sinistrés et nettoyer les côtes de la Louisiane. Au Nigeria, c'est environ 180 000 tonnes de pétrole qui se déverse chaque année dans la mangrove. Continuer à rouler, il n'y a rien à voir. Au final, c'est un cercle vicieux qui se crée, car les populations touchées par ces marées noires n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins élémentaires. Eux, qui sont agriculteurs depuis des milliers d'années, voient leurs outils de subsistance souillés par l'or noir. Du coup, comme c'est le cas en Somalie par exemple, ils se mettent aux actes de piratage et de sabotage et créent un climat d'insécurité qui éloigne autant les touristes que les médias. Finalement, tout continue comme avant, avec la certitude que personne ne viendra plonger son nez dans le business. Des personnages comme l'écrivain Kensaro Wima ont payé de leur vie leur militantisme écologique face aux désastres provoqués par l'exploitation pétrolière au Nigeria. En 1992, s'adressant à l'Organisation des peuples et nations non représentées à Genève en Suisse, il disait « L'exploration pétrolière a transformé le pays Ogoni, une des régions du delta du Niger, en immense terrain vague. Les terres, les rivières et les ruisseaux sont en permanence entièrement pollués. L'atmosphère est empoisonnée, chargée de vapeurs d'hydrocarbures, de méthane, d'oxyde de carbone et de suie rejetée par les torcheurs qui, depuis plus de 30 ans, brûlent des gaz 24 heures sur 24, tout près des zones d'habitation. Notre territoire a été dévasté par des pluies acides et des épanchements ou des jaillissements d'hydrocarbures. Le réseau d'oléoducs à haute pression qui quadrille les terres cultivées et les villages Ogoni constitue une dangereuse menace. » Fin de citation. Il est finalement exécuté par pendaison 3 ans plus tard et la compagnie Shell est poursuivie pour complicité dans l'élimination de ce militant gênant. Vu qu'on continue de découvrir de nouveaux gisements de pétrole dans le delta du Niger, on peine à croire que les situations écologiques, sociales, voire politiques vont s'améliorer. Avec une population nombreuse, bouillonnante d'énergie, jeune, dynamique, un sous-sol minier riche, une biodiversité exceptionnelle et une terre qui a nourri durant, disons, plus de 5000 ans, l'un des plus grands peuples d'Afrique, 63% de la population nigériane vit actuellement avec moins d'un dollar par jour. Quel paradoxe! Le Farafina Trip, aujourd'hui au Nigeria, pays qui s'est hissé au rang du deuxième consommateur au monde de champagne devant la Russie et la Chine. Il faut le faire quand même. C'est également la deuxième puissance cinématographique en quantité de films produits, après Bollywood en Inde et avant même Hollywood aux États-Unis. Si Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, reste le Cannes africain avec le FESPACO, un festival consacré aux films africains qui a lieu tous les deux ans, c'est plutôt au Nigeria que l'industrie du film est florissante. S'il y a bien un domaine où le Nigeria, depuis plusieurs dizaines d'années, assis sa notoriété en Afrique, c'est bien au niveau culturel. Des écrivains comme Chinua Achebe, décédé il y a quelques mois, et auteur entre autres du roman « Le monde s'effondre », sont des grandes plumes du continent africain. Dans le roman « Le monde s'effondre » écrit en 1958, Chinua Achebe décrit le choc notamment culturel qui se vit en Afrique suite à l'arrivée des Européens. Ce roman a été tiré à plus de 3 millions d'exemplaires. Chinua Achebe est l'un des auteurs les plus lus actuellement sur le continent africain. Son compatriote Wole Soyinka est le premier auteur africain et le premier auteur noir lauréat du prix Nobel de littérature. Il obtient celui-ci en 1986. Dramaturge, essayiste et poète, Wole Soyinka mêle son engagement politique à ses œuvres littéraires et théâtrales. Il dénoncera tous les régimes dictatoriaux qui se succèdent au Nigeria et séjournera plusieurs fois en prison, et y vivra même quelques années en exil. La plupart de ses écrits portent sur la liberté bafouée des personnes, la cohabitation des cultures et l'asservissement des peuples. Quelques-unes de ses œuvres sont traduites en français, et si vous avez l'occasion, laissez-vous emporter par ses écrits, et je vous conseille notamment son roman « La mort et l'écuyer du roi ».
I'm
Au niveau musical, c'est dans la ville de Lagos que les choses se passent. Pétillante ville de plus de 15 millions d'habitants, accessible uniquement aux véritables aventuriers urbains, c'est la plus grande ville d'Afrique noire. Le Caire en Égypte, avec ses quelques 20 millions d'habitants, étant la première dans toute l'Afrique. Lagos est un peu un équivalent de New York pour les Africains. Tous les artistes qui émergent au Nigeria passent par là, et dans les années 60 à 80, tout artiste africain devait aussi s'y frotter pour asseoir sa renommée continentale. Ancienne capitale politique, Lagos est aujourd'hui le poumon économique et artistique du Nigeria. Lagos était appelé autrefois le cœur de la musique africaine en raison non seulement de ses nombreux studios d'enregistrement bien équipés, mais aussi de sa vie nocturne terriblement ambiancée. S'agissant de la musique traditionnelle nigériane, comme dans toute l'Afrique, elle est surtout rituelle. Elle se joue au cours des différents événements d'une famille et d'une ethnie, que ce soit les mariages, les décès, les cérémonies de circoncision, les baptêmes, etc. Le grand nombre d'ethnies au Nigeria s'accompagne d'autant de rythmes, de chants et de danses diverses. Au niveau des instruments, c'est similaire à ceux que l'on retrouve un peu partout en Afrique noire, des percussions, des tambours, des balafons, des flûtes et autres violons, et j'en passe. Si la musique traditionnelle nigériane est, disons, commune à ce que l'on retrouve un peu partout en Afrique, son dérivé en musique populaire marquera l'évolution de la musique africaine tout entière. Avec des échanges avec l'Occident, bon gré mal gré, les va-et-vient de sa diaspora qui va s'enrichir d'autres cultures, les musiciens nigériens vont mêler le traditionnel à l'occidental et créer plusieurs genres musicaux. Vous connaissez l'afrobeat de Fela, il y a aussi la musique vin de palme, comme on l'appelle, c'est la palm wine music, qui est avec le high life, très populaire dans les régions anglo-saxonnes d'Afrique. Il y a également l'apala, le juju, le fuji, le yopop, l'afro juju, le waka, bref, une foultitude, comme dirait l'autre, de rythmes et de danses diverses. Preuve, s'il en fallait encore, de la richesse que les hommes ont à se rencontrer, à voyager et à partager. J'aimerais continuer plus longtemps à vous parler de ce magnifique pays, en tout cas artistiquement, culturellement et au niveau également de ses paysages, mais j'arrive au terme du temps qui m'est imparti. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours à la même heure pour une série d'émissions qui sera consacrée au festival Africa Jazz, dont la 15e édition aura lieu du 25 au 28 juillet à Cajar dans le Lot. La programmation est alléchante, éclectique, et je me propose de vous faire découvrir ou redécouvrir les artistes qui y sont invités. Balaké Sissoko, Fatoumata Diawara, le talentueux Toumani Diabaté, le bluesman camerounais Rola Tchakounte, les virtuoses de la percussion que sont les tambours de Brazza, et en guest star, Monsieur Soulma Kossa, en la personne de Monsieur Manu Dibango. C'était Jaco qui vous a proposé et présenté le Farafina Trip depuis le studio de CFM Akélus. On se retrouve dans 15 jours. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. On reste ensemble. We'll be right back. Farafina Trip sur CFM. Un voyage en musique à travers le continent africain, le mercredi à 22h, le dimanche à 15h.